BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons à Pertuis, dans le Vaucluse, chez Pellin-Castet, une entreprise spécialisée dans le tri des déchets et le recyclage des plastiques et des métaux. Pellinc veut franchir des étapes clés dans la décarbonation de ses process et dans le recyclage avec ses clients. Notre reporter Philippine Nolbeau est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons packaging dans la deuxième partie de l'émission. Comment adapter le secteur à la nouvelle donne climatique? Comment rendre le packaging plus durable? On verra ça avec deux dirigeants qui ont pris des mesures très concrètes. Sylvie Cazeneuve-Perret de Poisson Packaging et Guillaume Rockman de Sofrapack. Et on terminera l'émission comme toujours avec le Journal du Climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc à Pertuis, chez Pellin-Castet, une entreprise spécialisée dans le tri des déchets, dans le recyclage des plastiques et des métaux. Vous allez le voir, Pellin a déjà bien avancé dans sa bascule climatique, mais peut-être que le plus dur est à venir. Philippine Nolbeau est sur place avec les équipes de Pellin-Castet.
Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde du recyclage et de la valorisation des déchets chez Pellinc Selective Technologies. Spécialisée dans les équipements pour le tri des déchets, le recyclage des plastiques et des métaux, cette entreprise française compte déjà plus de 3000 machines en activité dans plus de 1000 centres à travers le monde. Mais pour faire face, vous allez le voir, aux enjeux climatiques, l'organisation doit réinventer ses machines, encourager aussi ses clients à accélérer leur filière de recyclage et engager aussi surtout toutes ses équipes. Alors on part tout de suite à la découverte de chacun de ces défis.
On a commencé en 2022 des travaux qui visaient à optimiser nos machines. Il faut savoir que les trieurs optiques qu'on conçoit, qu'on développe et qu'on commercialise, ils utilisent de l'air comprimé pour éjecter les objets à haute vitesse. Cet air comprimé, donc c'est de l'air qu'on va compresser, il consomme énormément d'énergie. Et chez nos clients, ce poste énergétique-là, c'est la première dépense énergétique. Et donc on a travaillé très activement en collaboration avec nos clients pour mieux régler nos machines, optimiser nos périphériques, pour faire en sorte de baisser cette consommation, tout en gardant une capacité de tri et une qualité de tri très élevée. Ces premiers résultats, fin 2022, ont permis de baisser la facture énergétique de nos clients d'environ 15%. Un des jalons majoritaires qu'on s'est mis, c'est 2030. 2030, on va diviser par deux la facture énergétique, l'empreinte carbone de nos machines, enfin de la machine, dans sa durée de vie. Donc on a continué à travailler avec cet objectif-là et on a développé des innovations, des nouveautés qui permettent, en changeant l'architecture pneumatique de nos machines, de gagner encore 15% sur la facture énergétique. Donc aujourd'hui, dès aujourd'hui, à 2025, on a réduit de 30% notre facture énergétique sur nos machines.
Bonjour Jean-Anna.
Bonjour.
Merci de nous avoir accueillis sur le terrain, chez vous à Pertuis, dans votre entreprise. Vous êtes le président de Pellin-Castet et vous êtes aujourd'hui en plateau avec nous dans BFM Climat pour qu'on vous aide à avancer. Et c'est Mickaël Margot à vos côtés de Carbone 4 qui va s'en charger aujourd'hui. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
On rentre dans le vif du sujet, Mickaël. Comment faire pour que les machines de Pellin-Castet passent de 30 à 50 missions d'économie de leurs émissions?
En fait, la première question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces émissions? Et ça a été dit dans le reportage, la majorité des émissions des machines vendues par Pellin, 90% de ces émissions, viennent de leur consommation d'énergie chez leurs clients. Et donc, en fait, pour réduire cette consommation, on va pouvoir faire de l'éco-conception, ce qui est en cours, ce qui est en train d'être fait, il y a encore du travail là-dessus.
D'accord.
Réduire la consommation des nouvelles machines, mais on peut aussi envisager d'avoir des modules qui permettent d'améliorer les machines déjà existantes.
Ouais.
On a dit, il y a plus de 3000 machines déjà existantes installées chez leurs clients. Et donc, avec des modules qu'on va pouvoir améliorer, s'il y a une carte plus performante, un capteur plus performant, afin de réduire la consommation d'énergie des machines, même quand elles sont déjà posées chez des clients.
Ouais. Et ça, ce type d'innovation, Jean-Anna, c'est vous avez la main là-dessus. C'est vous qui développez ces innovations, soit d'éco-conception, soit d'adaptation au fil de l'eau des machines?
Alors, chez Pellin-Castet, on a la particularité, en effet, de développer nous-mêmes nos technologies, développer nous-mêmes nos programmes de développement de nos produits, de nos briques technologiques, comme on les appelle chez nous. L'idée, c'est d'avoir une bonne connaissance, en effet, de ces technologies, qu'on parle aussi bien du domaine des données, l'intelligence artificielle, que des capteurs, on développe beaucoup. L'intérêt, c'est d'avoir une architecture, un design, qui permet de répondre vraiment aux besoins des clients, aux besoins du marché. Donc derrière, on a bien sûr ces contraintes énergie qui sont très intéressantes, qui sont en effet inspirantes pour nos ingénieurs, que vous avez vu ici, David.
Tout à fait,
mais qui permettent vraiment de coller aux besoins de la décarbonation de l'entièreté de la filière.
Ouais.
Donc le fait d'avoir, en effet, comme vous l'avez demandé, une bonne empreinte sur une bonne maîtrise de ces technologies permet vraiment de répondre sur l'ensemble de la chaîne de valeur aux défis énergétiques.
Et d'un mot, les clients, ils vous suivent là-dedans? C'est-à-dire que vous voulez décarboner toujours plus? Les clients, ils veulent des machines toujours plus vertes?
Alors, les clients, qui sont les grands exploitants, hein, qui ont besoin de ces équipements, de ces machines de tri, que ce soit Veolia, Suez, Paprec et les autres, ont besoin d'équipements à la pointe des technologies pour déjà répondre aux fonctionnalités et ont besoin aussi de décarboner les filières. Donc, ils sont très demandeurs, ils sont vraiment avides d'innovation. Et c'est là qu'avec nos équipes terrain et nos équipes innovation, on a en effet l'ensemble des équipes qui répondent à ces problématiques.
Oui, vous suivez. Alors, on retourne sur place avec Philippine parce que vous avez un autre défi, au-delà de la décarbonation, c'est que vous voulez embarquer justement plus d'entreprises à venir et plus de filières dans le recyclage.
Deuxième défi, amener ses clients à développer leur filière de recyclage, emballage, textile, chimie, automobile. Pour tous ces secteurs, la transition vers une économie circulaire est incontournable. Concrètement, ça veut dire innover sur des solutions de tri, éco-concevoir les produits et miser bien sûr sur des matériaux de demain pour réduire la consommation des ressources.
On repousse de plus en plus les limites de détection de nos machines. Grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de reconnaître ce qui ici est un carton blanc. On avait beaucoup de difficultés, c'est un carton à pizza. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de le mettre avec les cartons. C'est une étape très importante dans le tri des fibreux. Et ici, on a une bouteille plastique avec un manchon. C'était aussi compliqué de passer au travers de l'étiquette. Et de nouveau, grâce à nos organes de détection plus puissants et l'intelligence artificielle, on arrive à ce que cette bouteille soit mise au bon endroit, qu'elle soit recyclée, ce qui est notre but. Un autre élément qui est important de dire, c'est au sein de Paulin Questé, on développe de plus en plus en amont, avec les metteurs sur le marché, de l'accompagnement par rapport à la circularité. Donc nous avions ici une barquette et une bouteille qui étaient en noir de carbone, avec beaucoup de difficultés de détection. Et pendant un projet de plusieurs mois, on a travaillé les metteurs sur le marché pour enlever le noir de carbone et ajouter d'autres additifs qui permettent toujours d'avoir un aspect noir, mais qui permettent d'être détectables. Et ça, ça permet à ce que des millions de tonnes de produits soient détectés, donc triés, donc recyclés. Derniers éléments dont je veux vous parler, les emballages, c'est pour nous une grosse source, je dirais, d'activité. Mais on est en train d'explorer d'autres filières, la filière des déchets du bâtiment, la filière textile, la filière aussi des résidus du broyage automobile. Donc on développe des détections, du savoir-faire qui permettent en effet de repousser les limites de recyclabilité et in fine de permettre à ces filières qu'elles soient vraiment des boucles fermées et de développer cette économie circulaire.
Alors, Mickaël Margot, là c'est vraiment un défi hyper structurant pour Paylink. Comment faire pour embarquer ces nouvelles filières dans le recyclage?
Globalement, en fait, déjà, la loi nous encourage. C'est-à-dire que la stratégie nationale bas carbone en France, le volet sur les déchets, dit on va faire moins 66% d'émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2050. Mmh. C'est énorme comme réduction. Comment on fait? On fait moins de déchets. Le chapitre sur les déchets parle d'éco-conception, de circularité, de recyclage, etc. Et en fait, comment on fait pour créer de nouvelles filières ou renforcer des filières qui existent? Il y a toujours besoin de trois éléments, et s'il y en a un qui manque, ça fonctionne pas. Il faut pouvoir collecter la matière qu'on veut traiter, il faut pouvoir la trier et la renaturer, la rendre utilisable, et il faut des clients pour cette matière recyclée. Il faut des metteurs sur le marché qui ont des volumes et qui sont capables de s'embarquer là-dedans. Et donc ça, ça pousse et ça oblige à raisonner en chaîne de valeur. Il faut réfléchir avec l'amont, avec ses fournisseurs, avec ses clients, et ça, s'appuyer sur des fédérations, sur des éco-organismes qui existent, c'est un moyen d'embarquer ces chaînes de valeur qu'on évoquait Jean tout à l'heure.
Mais alors, justement, Jean-Hénin, est-ce que ces filières-là, automobiles, bâtiments, qui, on le sait, en ce moment, sont sinistrés, enfin, en tout cas, en difficulté, est-ce qu'elles restent à l'écoute de ce type de processus et de bascule, ou est-ce qu'en ce moment, c'est vous prenez des murs, pardon l'expression, mais c'est compliqué?
Non, en effet, il faut savoir, quand on parle de filière, on parle de parties prenantes, et en effet, tous les parties prenantes n'ont pas exactement le même rythme ou les mêmes intentions. Donc c'est là qu'il faut réussir à saisir, pour nous, entreprises Paulin Questé, ETI, jeunes ETI, de savoir saisir les filières qui sont mûres, les filières qui sont prêtes, et puis d'autres filières, on se met plutôt en mode R&D, on continue en fait à innover, à itérer dans nos technologies. Mais il faut savoir que le mouvement de fond est quand même très positif, il avance. Quand vous parlez à l'ensemble des fédérations de ces secteurs, elles bougent, elles avancent à leur rythme, et là aussi, il faut savoir aussi accélérer qu'on va accélérer et en même temps prendre un petit temps de pause. Sur le textile, ça fait déjà plusieurs années qu'on y est. On a commencé à amorcer un très beau démonstrateur à Amplepluie avec les tissages de Charlieu, nouvelle fibre textile. Et donc grâce à cette concomitance dont parlait très bien Mickaël, de vraiment comprendre les intérêts des uns, ce qu'on appelle le gisement entrant et le marché sortant, ça nous permet vraiment d'apporter les technologies qui sont justes par rapport aux besoins.
Alors, on retourne une dernière fois sur le terrain, parce que là, on parlait d'embarquer plus de filières. Il y a aussi un dernier sujet qui revient souvent dans BFM Climat, c'est d'embarquer tout simplement en interne pour réussir la bascule.
Troisième défi, engager les collaborateurs dans cette transition, changer les mentalités, les habitudes de travail et faire évoluer, bien sûr, l'organisation interne, de l'équipement des salariés jusqu'au déplacement en passant par les infrastructures. L'entreprise veut bien sûr réussir cette bascule collective.
On a des actions très concrètes qui ont vu le jour, notamment comme The Week. Donc The Week qui est un programme de formation finalement sur une semaine, trois sessions d'une heure et demie dans laquelle on prend conscience de l'urgence climatique et on incite les collaborateurs à agir. Et ça a bien fonctionné chez nous puisqu'une soixantaine de collaborateurs ont participé sur la base du volontariat, aussi bien en France qu'à l'international. Et à l'issue de ça, des projets très concrets ont vu le jour, 10 projets concrets ont vu le jour, comme la création de potagers, comme la mise en place d'un repair corner, mais aussi un projet de mobilité douce.
Alors Mickaël, pour finir, je le disais, c'est un sujet qui revient souvent dans BFM Climat, embarquer les troupes. Comment faire tout simplement pour que tout le monde adhère? Parce que la bascule climatique, c'est pas entre guillemets que le climat, même si c'est essentiel, c'est tout simplement un nouveau projet d'entreprise. Comment faire pour que tout le monde suive?
On peut évoquer deux éléments. Il faut donner envie de changer. Et pour donner envie de changer, il faut déjà comprendre ce sur quoi je peux agir, qu'est-ce qui a de l'impact dans mes déplacements entre mon domicile et mon travail, sur la façon de m'alimenter, sur mes déplacements professionnels, etc. Et il faut proposer des alternatives. C'est-à-dire que si on se dit on veut travailler, ça a été évoqué dans le reportage, on veut travailler le trajet domicile-travail, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des transports en commun qui viennent jusqu'au site? Est-ce qu'on peut faire installer par la mairie un arrêt de bus? Ça se fait. Est-ce qu'il y a de quoi recharger une voiture électrique? Est-ce qu'il y a des parkings sécurisés pour mettre des vélos? Est-ce qu'il y a des incitations à faire du covoiturage, etc., etc. Il ne faut pas avoir essayer d'éviter des demandes où les salariés peuvent se retrouver coincés,
ouais,
en disant
mais
j'ai pas les moyens d'agir. Donc il faut proposer des alternatives.
Chez vous, Jean-Hénin, visiblement ça a l'air de pas trop mal se passer. Il y a des patrons qui sont venus ici et qui disent pour moi c'est un vrai sujet, ça divise. La bascule climatique, ça crée des tensions. Comment ça se passe chez vous, en 30 secondes?
C'est vrai qu'il y a il peut y avoir des arbitrages qui ne sont pas évidents. Je suis d'accord aussi avec d'autres responsables d'entreprise. Ouais. Il n'est pas évident de trouver des arbitrages. Maintenant, en fixant des objectifs, ce qu'on a voulu faire aussi avec Carbone 4, en fixant un objectif et surtout en donnant du sens aux collaborateurs, aujourd'hui, on a quand même une population, enfin en tout cas une société qui a envie. Donc Mickaël en parlait très bien, et ça permet de passer les caps, passer le cap des défis et parfois des contradictions, des paradoxes qu'on a du mal à dépasser.
Bon, ce sera le mot de la fin, message encourageant de bascule. Merci beaucoup à tous les deux, Jean Hénin de Pélin Casté et Mickaël Marco de Carbone 4.
Merci.
Allez, on a parlé tri et recyclage, on va parler packaging à présent. Comment faire du packaging durable et comment adapter le secteur à la nouvelle donne climatique? On en parle aujourd'hui avec deux dirigeants qui ont mis en place des mesures très concrètes et qui veulent les partager avec vous. Bonjour Sylvie Cazeneuve-Perret.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes la présidente de Poisson Packaging dans la Sarthe. Et avec vous Guillaume Rockman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de Sofrapack, un petit peu plus près en région parisienne.
Tout à fait.
Sylvie Cazeneuve-Perret, je commence avec vous. Vous êtes emparée du sujet climatique il y a très longtemps. Donc vous avez beaucoup de choses à partager avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Expliquez-nous concrètement comment vous avez adapté, fait évoluer votre entreprise et votre activité aux limites planétaires et au climat.
Alors tout d'abord, moi je viens du réglementaire. Donc quand j'ai repris l'entreprise qui avait déposé son bilan, elle était absolument au fond du trou. Et donc je me suis attachée à la coordination de tout ce qui était réglementaire au sein de l'entreprise. Et donc l'impact environnemental faisait partie du réglementaire. Donc on est...
Déjà.
Un produit très vite, oui, il y a 30 ans,
ouais.
Même si on en parlait peu, une norme qui est une grande norme environnementale, l'ISO 14001, et puis très vite, on s'est attaché à travailler notre premier bilan carbone. Donc j'en parlais avec un des prédécesseurs ici sur le plateau, Carbone 14, parce que justement, c'était ça l'enjeu. Donc on a publié notre premier bilan carbone il y a 17 ans, et depuis, on a publié un bilan carbone tous les ans, ce qui nous a aidés accompagner à réduire notre impact environnemental, mais surtout à trouver du profit là où d'autres ne verraient que du réglementaire, en fait. Et donc, l'entreprise s'est redressée et puis aujourd'hui peut porter une offre très compétitive à ses clients tout en respectant ses engagements.
Mais alors, c'est très intéressant, Sylvie Cazeneuve-Perret, et après, on va voir avec vous comment ça se passe chez Rockman. On entend tellement dire que justement, le climat, la réglementation, c'est une contrainte qui pèse sur la compétitivité des entreprises. Vous vous dites que c'est tout le contraire, que ça a aidé à ressusciter votre entreprise. Concrètement, expliquez-nous comment ça s'est passé.
On en a d'ailleurs fait notre raison d'être, puisqu'on est devenu une entreprise à mission sur ses fondamentaux.
Mais comment ça a relancé votre business, le réglementaire et le climat?
En fait, le réglementaire, il ne faut pas attendre qu'il arrive pour s'en inquiéter. Il faut anticiper sans cesse ce qui devient des normes mondiales. On ne peut pas dire que la globalisation n'ait pas entraîné une autre organisation du commerce. Donc forcément, avec la globalisation, il y a en face de la réglementation. Donc c'est aux dirigeants de s'en emparer, de comprendre ce qu'ils peuvent en faire comme atout pour leur entreprise.
D'accord.
Nous, on transforme des milliers de tonnes de carton en emballage. Mmh. On fabrique 3 millions d'emballages tous les jours. Ces emballages, ils sont vitaux pour l'économie. C'est ce qui, d'ailleurs, nous a permis de continuer pendant le Covid. On fabrique des emballages pour l'hygiène santé, pour l'agroalimentaire. Donc, c'est absolument vital de fabriquer ces emballages pour nos clients industriels, mais aussi pour le consommateur. Mais en même temps, comment le faire? Il y a plusieurs manières de le faire. On va utiliser les mêmes machines, mais comment consommer moins d'énergie? Comment impacter moins l'environnement? Comment, par exemple, imprimer avec des encres végétales, des vernis acryliques? C'est ce qu'on fait depuis 20 ans maintenant dans notre usine.
Ok, très intéressant, vraiment une pionnière là-dessus. Même question pour vous, Guillaume Rockman, même si votre société maintenant a 20 ans aussi. Comment est-ce que vous faites pour rendre le packaging plus durable?
Alors, c'est Rochman, mais...
Autant pour moi, excusez-moi, j'avais un doute.
Ça me va aussi.
Non, Rochman.
Du coup, je me retrouvais pas. Oui, donc effectivement, ça va faire 20 ans en avril, là, donc vous venez de le dire. Nous, on est spécialisés on est dans une niche, plutôt, dans le monde de l'emballage, et je vais faire le pont sur la durabilité. On fabrique deux catégories de produits, à la fois des caisses en carton qui remplacent les caisses en bois.
D'accord.
Donc c'est il faut bien visualiser la caisse en bois, et on fait la même chose en carton, y compris la palette en carton sur mesure. Mm-hmm. Et c'est là où ça devient une niche, parce que on va répondre à des besoins de transport internationaux qui sont assez spécifiques en petite et moyenne série pour du transport d'objets qui sont assez fragiles, plus ou moins grands, plus ou moins lourds, et qui sont surtout chers, qui ont une certaine valeur, qui partent à l'export. Et donc l'empreinte carbone a une grande importance dans le transport international.
Oui, bien sûr.
A fortiori dans le transport national, mais encore plus dans le transport international. Et on a développé une deuxième catégorie de produits en étant devenu lauréat de France Relance il y a à peu près 2 ou 3 ans. Mm-hmm. 3 ans. C'est des rouleaux d'emballage en papier qui remplacent ce qu'on appelle le plastique bullcraft. Donc c'est dans la même lignée, mais c'est complémentaire. Mm. C'est pour pré-emballer toujours la même typologie d'objets avant de les mettre en caisse ou de jouer à Tetris dans un conteneur.
D'accord.
Et par rapport à la durabilité, nos produits le sont par définition. Les caisses en carton qu'on produit sont à base de carton qui est déjà 92% recyclé. Mm-hmm. C'est 4 fois plus léger. Il y a donc une empreinte carbone plus du tout la même.
Bien sûr.
On a fait même des analyses de cycle de vie qui ont prouvé que nos produits, à la fois les caisses, qui vont émettre à peu près 35% d'émissions de CO2 en moins que les caisses en bois, et nos rouleaux d'emballage en papier vont émettre 45% d'émissions de CO2 en moins que le plastique.
Donc, pourquoi vous êtes... Parce que donc Sylvie l'expliquait, elle est allée là-dessus, ça a été le moyen de relancer l'entreprise qui était au bord de la faillite. Vous, pourquoi vous êtes allée sur ces innovations? Est-ce que c'est par pure conviction? C'était un moyen de vous distinguer de la concurrence? Pourquoi vous êtes allée là-dessus, positionnée là-dessus?
Au départ, il y a un peu de tout. C'est une opportunité de la vie qui m'a amenée dans cet univers. Et qui plus est, ça rejoignait ce que j'en pensais. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'industrie, mais on peut être dans l'industrie durable. Mmh. Et ça, il y a 20 ans. Donc, la durabilité, bon, c'était un vaste sujet, mais c'était pas du tout le sujet.
Ouais, bien sûr.
Et le sujet d'aujourd'hui.
Beaucoup moins concret qu'aujourd'hui, ouais.
Complètement.
Ouais. Si tu me permets, Guillaume, c'est exactement la même chose pour nous. En fait, l'entreprise Poisson Packaging, elle existe depuis 80 ans. Ce n'est pas ma famille. Poisson, c'est un patronyme, ce n'est pas ma famille. J'en fais pas partie de cette famille. Moi, c'est l'actionnaire qui est venu me chercher.
Ouais.
L'entreprise avait déjà fait faillite, Thomas. Elle
D'accord.
était morte.
Ouais, ouais.
Il fallait rembourser les dettes. Donc, en fait, ce sont des opportunités de la vie qui nous amènent à pour moi soigner une entreprise qui allait mal. Mmh. Et ça m'a absolument passionnée de la soigner autrement. C'est-à-dire pas seulement en parlant de profitabilité immédiate, d'investissement considérable, parce que ce sont des industries dans nos métiers très capitalistiques. Mmh. Il faut vraiment investir dans des machines très efficaces pour pouvoir être compétitif sur le marché. Mais en même temps, il faut aller chercher de la valeur là où on n'en trouve pas forcément. Ouais. Et la valeur, c'est l'éco-conception, ouais, c'est la formation des équipes, c'est l'entraînement, par exemple, la formation très modeste aussi et l'acculturation de nos clients à l'impact carbone des produits qui nous commandent. On a créé un indice carbone qui s'appelle le Green Pack, mmh, où on calcule l'impact carbone du produit, ouais, qu'on va leur fabriquer fonction des matériaux qu'ils vont utiliser ou choisir au plan marketing ou logistique. Mais à chaque fois, on a cette démarche volontariste de faire concourir à la fois nos fournisseurs, à la fois nos clients, à la création du produit avec notre bureau,
oui,
d'études.
Justement, pour rebondir là-dessus, parce qu'il nous reste déjà plus que 30 secondes, l'un et l'autre, vous évoquez la valeur verte. Vous arrivez, oui, à la monétiser, parce que des patrons que je reçois ici régulièrement me disent « je n'y arrive pas ».
Et si on arrive à la monétiser chez nous, on a calculé, c'est une question qui nous a été posée parce qu'on s'était pas penché sur le sujet, c'est quand même idiot. Et donc on a calculé que tous les ans, notre bilan carbone nous rapportait autour de 500 000 euros.
Ouais, vos réductions d'émissions.
De réduction d'émissions, ouais, et d'optimisation, ouais, de tout ce qu'on dépense autour de la réduction de notre impact carbone.
Et vous aussi, Guillaume, le mot de la fin, vous arrivez à vendre un peu plus cher en faisant plus durable.
Faut pas
en
faire ça.
On peut pas malheureusement faire plus cher, parce que non seulement il faut être vert, il faut, ouais, fabriquer en France, et puis il faut être moins cher. Ouais. Donc bon, il faut essayer de trouver le juste équilibre, et c'est là où on se bat tous les jours. Mmh. On peut toujours faire moins cher, mais la qualité va baisser,
ouais,
etc., etc. Mais je le valorise par mes clients. Où c'est nos clients qui vont nous dire, bah nous on a recruté par exemple des sustainable managers qui vont mettre en place des études de cas parmi des différents groupes d'entreprises pour se dire, est-ce qu'on peut réutiliser vos produits, est-ce que on peut générer de la circularité, est-ce que derrière notre empreinte carbone elle va vraiment baisser, et par des témoignages, donc on n'a plus de temps, mais par des témoignages finalement on voit qu'on, ouais, produit quelque chose de vert.
Bon, et ça, ce sera le mot de la fin. Ouais, désolé, on est déjà arrivé au terme. Mais vous reviendrez parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Merci beaucoup, Sylvie Cazenatière et Poisson Packaging, et Guillaume Rochman de Sofrapac. On accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Directeur de l'AXA Climate School. On commence Antoine aujourd'hui avec un rapport de l'Inspection Générale des Finances qui recommande une grande réforme du secteur publicitaire.
Oui, c'est un rapport commandé au dernier jour du gouvernement Attal aux inspections générales des finances, de la culture et du développement durable. Il avait été tenu secret après sa remise juste avant Noël, mais c'est le média en ligne L'Informé qui l'a rendu public récemment. L'objectif, rendre la publicité compatible avec une consommation plus durable. Et ce que recommande ce rapport, c'est finalement une loi E20 du climat, mais en version XXL. Première mesure, interdire la publicité pour certains produits trop polluants, les trajets courts, les vols en avion, les voitures les plus émettrices par exemple. C'est quelque chose qui se fait déjà, par exemple, dans la ville de Maastricht depuis l'année dernière.
Ouais, on en avait parlé.
Deuxième sujet, beaucoup plus structurel, il s'agirait de réduire ce que le rapport appelle la pression publicitaire. Pour ça, on mettrait un maximum au volume de publicité qu'on a sur Internet. On a déjà ça à la radio et à la télé, par exemple, sur BFM Business. Et ce maximum de publicité, progressivement, on l'abaisserait. Il s'agit là d'une vraie mesure de rupture. Le dernier point, c'est que les auteurs du rapport ne sont pas tendres avec l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Cet organe d'autorégulation, justement, de la profession, eh bien, ils recommandent de le placer sous le contrôle de l'ARCOM, ce qui donnerait un pouvoir de sanction étendu. Alors, ces mesures, elles rappellent certaines des propositions de la Convention citoyenne pour le climat en 2020 qui n'avaient pas été reprises, mais cette fois-ci, elles viennent de hauts fonctionnaires. À suivre. Donc.
Effectivement, c'est symbolique. On poursuit, Antoine, avec cette étude publiée chez Science qui révèle que les sols sont malheureusement de plus en plus secs un peu partout dans le monde.
Oui, c'est une grande étude qui a réussi à mesurer la quantité d'eau présente dans les sols partout dans le monde, et nous sommes en train de vivre un grand assèchement, notamment à cause du réchauffement climatique. Ce que montre bien cette étude également, c'est que ce phénomène n'est pas du tout linéaire. Il y a eu trois années clés, 2000, 2001, 2002, où les sols ont perdu en tout 1600 milliards de tonnes d'eau. Eh bien, c'est beaucoup parce que dans les 15 ans qui ont suivi, on a perdu seulement 1000 milliards de tonnes d'eau supplémentaires. Évidemment, on a un peu mal à se rendre compte des volumes. Sur ces trois années catastrophiques pour la sécheresse des sols, 1600 milliards de tonnes d'eau, eh bien, c'est deux fois plus que ce qu'a perdu le Groenland à cause de la fonte des glaces. C'est donc significatif. Cet assèchement, c'est une mauvaise nouvelle pour au moins deux raisons. D'abord, avec des sols plus secs, eh bien, quand les pluies ralentissent, on est beaucoup plus exposé aux sécheresses. Et puis, c'est une mauvaise nouvelle pour la santé de nos forêts et globalement de nos végétaux. Avec des sols plus secs, ils captent moins de carbone et le réchauffement climatique augmente. On est donc là face à un véritable cercle vicieux.
Et pour finir, Antoine, vous nous parlez du nouveau défi qui attend les villes à cause du changement climatique, la prolifération des rats.
Oui, c'est une étude qui a regardé le cas des villes nord-américaines notamment et qui constate qu'on a beaucoup plus de rats chaque année. Alors c'est toujours dur à mesurer, mais pour faire ça, on regarde le nombre d'appels des citoyens pour signaler des rats et puis le nombre d'interventions des services de dératisation. En 10 ans, le nombre d'appels a presque triplé à Toronto ou à New York. Il a été multiplié par 4 à San Francisco et par 5, c'est un record, à New York. Et quand on regarde ces courbes, eh bien elles correspondent aux courbes du réchauffement climatique. D'où l'explication apportée par les chercheurs. Quand il fait froid l'hiver, eh bien les rats ont plus de mal à se reproduire, mais dans un climat qui se réchauffe, ils prolifèrent. C'est une mauvaise nouvelle pour la qualité de vie, bien sûr, mais aussi une mauvaise nouvelle économique, parce que les dégâts causés par ces rongeurs se chiffrent en milliards d'euros chaque année. Alors il y a quand même un espoir, il y a des villes qui arrivent, et notamment en gérant mieux les déchets. Le rapport montre quelques villes qui ont mieux réussi que d'autres. Il y a Tokyo, au Japon, mais aussi aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans ou Louisville, comme quoi l'espoir est permis.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Antoine.
Merci
et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à la Convention des entreprises pour le climat pour son aide dans la préparation de cette émission. À la semaine prochaine et d'ici là, on garde contact sur bfmbusiness.com, en podcast, sur les réseaux sociaux et sur notre appli bien sûr. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.